Bonsoir Kevin, comment ça va?
Ça va bien, Hugo, et toi?
Ça va bien aussi, merci. Je t'ai dit bonsoir parce que c'est le retour, en tout cas au moins pour cette fois, des enregistrements nocturnes. Alors, longtemps on était de jour et voilà, donc maintenant on est de soir. Je sais que pour les gens qui nous écoutent, c'est excessivement excitant. Alors, contenez-vous, je vous en prie. Attendez au moins jusqu'à la fin de l'épisode avant de perdre connaissance, qu'on sorte les selles, là, tu sais, comme dans le temps, là, qui les corsets. Bienvenue donc à ce nouvel épisode de Rembobinage. Donc, bien sûr, toujours votre rendez-vous cinéma, télévision. Tu sais, Kevin, moi, j'ai... Ben, en fait, je pense que c'était pas avec toi que j'en parlais, mais... en tout cas, évidemment, c'est pas avec toi qu'on a parlé de la série Andor, mais j'ai certainement déjà abordé la question de la représentation des journalistes dans le cinéma et dans la télévision. Je ne sais pas dans quel épisode on en a parlé exactement, ou peut-être dans plusieurs épisodes, mais on a déjà abordé certainement cette question-là, parce que en tant que journaliste, puis bon, toi aussi en tant qu'ancien journaliste, peut-être que ça t'affecte aussi. Puis d'ailleurs, je te considère comme étant un journaliste. Là, tu collabores à Pieuvre, tu es un podcasteur,
chroniqueur cinéma. Oui, mais en même temps... Moi, j'étais ou je suis journaliste cinéma, donc j'ai jamais couvert de conflits armés, j'ai pas été en zone de guerre. C'est quand même assez différent.
Ben, je sais, moi non plus, mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est qu'on a déjà parlé de la question de l'image qu'on projette des journalistes sur grand écran ou sur petit écran, qui est pas toujours une image exacte. C'est sûr que, bon, le job de journaliste, c'est pas toujours glamour. C'est souvent, t'es au bureau, puis t'es à un ordinateur et tu fais ta job. Comme beaucoup d'autres jobs dans la vie. Mais, c'est ça, on en parle aujourd'hui parce que, ben, t'as mentionné le mot guerre. Puis évidemment, si vous avez lu le titre de l'épisode, vous savez exactement de quel film on parle. Mais on a vu Civil War d'Alex Garland. Et évidemment, c'est le film dont on parle aujourd'hui.
Oui, absolument. Puis c'est le film aussi que tout le monde parle pas mal, du moins en Amérique du Nord. Ça fait, au moment où qu'on se parle, ça fait 2 semaines qu'il est au numéro 1 du box-office. Et sur Internet, il y a beaucoup de discussions en bien, en mal, en interprétation du film. Donc, je trouve que c'est le fun qu'on en parle à Rembobinage.
Oui, ben je suis bien content d'en parler aussi. Ben d'abord, je tiens à souligner que Jim Chartrand, qui était collaborateur évidemment régulier depuis, avait déjà fait une critique écrite pour du film. Donc, je vais vous mettre le lien vers son texte dans la description de l'épisode sur Pieuvre. Mais c'était effectivement un sujet bien intéressant. Alex Garland, dont on a déjà parlé au podcast. D'ailleurs, j'ai pensé à toi. C'est lui qui a réalisé Men, que t'as tant détesté.
Toi non plus, t'avais pas vraiment aimé, je pense.
Ben, ça, disons que ça travaillait très fort pour envoyer un message qui n'est pas tout à fait clair. C'était très subtil. Il y avait beaucoup de deuxième sens que j'avais pas tout compris. Puis là, je regardais la filmographie d'Alex Garland, autant comme réalisateur que comme scénariste. Ça part un peu dans tous les sens, dans le sens où il en a fait des bons, il en a fait des très bons, il en a fait de ce que je pense être des moins bons, dont Men, on peut le dire. Mais c'est lui notamment qui avait fait réaliser, scénariser Annihilation en 2018, que j'ai trouvé fantastique. Toi, t'avais-tu aimé ça?
Oui, j'avais aimé ça. J'avais aimé aussi son premier film comme réalisateur, Ex Machina. Mm-hmm. J'avais beaucoup aimé.
Moi, j'avais moins aimé, mais effectivement, c'était nouveau, c'était différent, puis ça provoquait certainement. Celui qui avait scénarisé Dread aussi en 2012, que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui est un excellent exemple de film d'action qui se prend juste assez au sérieux pour que ça marche.
Ben, ce qui est drôle, c'est que j'ai revu Dread et il y a des liens à faire avec Civil War. T'sais, si je peux me permettre rapidement.
Oui, bien sûr.
OK, dans Dread, le futur est un petit peu plus éloigné, mais on est quand même aux États-Unis un peu dans le futur, et c'est des États-Unis où règne le chaos, la violence, et il y a le personnage principal prend sous son aile, un peu malgré lui, dans ce cas-là, une jeune femme qui veut faire sa profession. Fait que je voyais comme plein de liens entre les deux.
J'avoue que j'avais pas pensé à ça, mais effectivement, ce que tu dis est tout à fait logique. Et bon, il avait travaillé aussi sur 28 Days Later, qui était très bien. très, très, il y a maintenant longtemps, il y a, en 2002, et il travaille d'ailleurs sur 28 Years Later, donc qui n'a pas encore de date de sortie annoncée, mais semble-t-il qu'il en est le scénariste et le producteur, donc évidemment, M. Garland continue bien sûr de travailler. Mais bon, c'est ça, on est là pour parler de Civil War. Est-ce que tu as aimé Civil War?
Oui, j'ai aimé ça, avec certaines réserves qu'on va pouvoir évidemment en discuter, mais dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé.
Écoute, j'ai aimé la technique. Puis évidemment, on va en parler dans quelques minutes, on est là pour ça. Mais, tu sais, je parlais de la représentation des journalistes, et c'est une bonne représentation, puis on va plonger là-dedans aussi, mais j'ai trouvé que malheureusement, pour un film qui est tellement chargé sur le plan politique, qui est tellement... Juste le terme Civil War, puis l'affiche, c'est la flamme, la torche de la Statue de la Liberté à New York avec des snipers, puis avec des sacs de sable et tout ça. J'ai trouvé que le message était absent et ça m'a beaucoup déçu parce que... en tout cas, avant de plonger là-dedans, peut-être je pourrais partir puis t'as fait 20 minutes de monologue. C'est pas nécessairement pour ça que les gens sont là. Si vous l'êtes, faites-moi signe, je vous fais un truc à part ou fais juste vous parler de mes journées. Mais bref, avant tout ça, je vais quand même nous résumer, bon, c'est ça, l'intrigue de Civil War. Tu l'as mentionné, bon, évidemment, le titre l'a dit aussi, Guerre civile aux États-Unis. C'est l'histoire d'un groupe de journalistes qui est à New York à la base et qui comprend notamment un personnage de lead, joué par Kirsten Dunst, qui est une journaliste de guerre là-dedans, qui a fait couvert des conflits un peu partout dans le monde, notamment en Afrique, Moyen-Orient, on imagine, bon. Et qui se retrouve donc à couvrir cette guerre civile aux États-Unis-là, qui est livrée entre, et là, c'est pas tout à fait clair dans le film, une alliance entre la Californie puis le Texas et un regroupement d'États autour de la Floride. C'est assez flou. Et ces gens-là se battent contre le gouvernement américain, qui est dirigé par un président qui n'a pas l'air d'être tout à fait pro-démocratie. En tout cas, il est à son troisième mandat. Président joué par Nick Offerman, qui a l'air assez tough. Et donc, c'est ça, les journalistes décident de partir à Washington parce que ils se sont fait dire, on a droit à une interview avec le président, on a réussi à arranger ça, en tout cas, on essaye d'arranger ça certainement, avant que les combats se rapprochent trop de la capitale fédérale. Et sur leur chemin, bon, il se passe un paquet d'affaires, choses violentes, vous avez vu la bande-annonce, vous comprenez un peu qu'il se passe, c'est pas nécessairement une partie plaisir, mais voilà, donc, et ça se termine d'une certaine façon, et là, c'est un peu dur, je pense, de pas trop tomber dans les divulgations, mais bref, il se passe toutes sortes de choses, et c'est ça, ça nous confronte à cette idée-là qui semble de plus en plus réaliste, que les Américains pourraient replonger dans la guerre civile, donc après la guerre de sécession là, vers le milieu du 19e siècle. Est-ce que ça résume bien l'intrigue?
Oui, c'est un bon résumé.
Mais oui, parle-moi un peu de toi, ce qui est venu te chercher, ce que tu as apprécié dans le film. Qu'est-ce que tu as trouvé bon?
Ben, tu mentionnais l'aspect technique, puis en effet, c'est un film qui est super bien réalisé. Il y a beaucoup de scènes de violence, tu le disais, des scènes de combat. Puis c'est très intense. Entre autres, je remarquais que le bruit des balles et des explosions, en tout cas, tu sais, on a vu le film en salle, c'est super percutant. Puis aussi, visuellement, la façon que tout est montré... T'sais, on dit que c'est des journalistes de guerre, fait qu'il y a un peu un côté reportage de guerre. On est vraiment avec les soldats, puis on est comme en plein dans l'action, puis c'est super intense. Ça, j'ai aimé ça. J'ai aimé aussi les acteurs ou quand même les personnages qui jouent, principalement des journalistes. T'as mentionné Kirsten Dunst, c'est aussi Wagner Moura qui joue... Un autre journaliste qui est, lui, vraiment accro à l'adrénaline, qui trippe vraiment d'être dans des zones de guerre. Puis, il y a la jeune femme, c'est Kaylee Spenny qui joue. Les gens l'ont peut-être vu dans Priscilla de Sofia Coppola. C'est elle qui jouait Priscilla Presley. Puis, elle, c'est une jeune femme, je pense qu'on s'est dit qu'elle a 23 ans, mais l'actrice a vraiment l'air jeune, elle a l'air d'avoir genre 15 ans. Fait que ça crée vraiment quelque chose qu'on c'est encore plus traumatisant. Vu que les autres journalistes sont plus âgés, tu dis, ils ont de l'expérience, ils ont vu plein de combats, ils ont passé à travers toutes les expériences, tandis qu'elle, c'est vraiment la première fois qu'elle se retrouve dans des situations de même, fait qu'elle est vraiment traumatisée souvent, surtout dans la première partie du film, par ce qu'elle voit, puis tout ça, je trouvais que c'était bien emmené.
Oui, ben effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Comme tu disais, la technique, on est dedans. C'est des scènes d'action qui sont très viscérales, sans être excessives. C'est pas un film, c'est pas un film de guerre. Oui et non, là. C'est pas un film de guerre comme pouvait l'être un film sur la Deuxième Guerre mondiale ou sur le Vietnam. Puis d'ailleurs, moi en tout cas, je vais revenir au Vietnam, la guerre du Vietnam dans pas très longtemps. Mais c'est un film, effectivement, les gens se tirent dessus, les gens meurent, et on a des scènes souvent, comme c'est des journalistes, on n'est pas nécessairement au front. On a des moments où on a des affrontements, mais en général, on n'est pas dans les tranchées, puis c'est pas les charges de tanks, puis tout ça. C'est vraiment des petits affrontements, c'est des trucs isolés. Et je me rappelle d'une scène où, justement, ils sont en chemin vers Washington, et à un moment donné, ils passent la nuit dans un stationnement de centre commercial ou je sais pas trop. Et au loin, t'as des bruits de combat, des bruits de tir, puis t'as de la défense antiaérienne, tout ça. Puis tu vois, c'est un peu comme si c'était des feux d'artifice. Puis ça a l'air calme. Et j'ai trouvé que la façon de présenter la guerre dans ce film-là était à la fois inquiétante, dans le sens où, évidemment, c'est la guerre, t'as pas envie d'être là-dedans, puis tu te dis, bon, ben c'est la guerre civile en plus, puis généralement, c'est le chaos, puis tu sais pas qui est avec qui, puis tout ça. Mais aussi, c'est une guerre qui a l'air très calme, en un sens, dans le sens où, tu sais, c'est pas... Encore une fois, on n'est pas au front, c'est pas la guerre, c'est pas 14-18, c'est pas 39-45. En ce moment, je suis en train d'écouter un balado sur la guerre de Corée. C'est pas la guerre de Corée. Y a un camp contre l'autre, mais ultimement, à moins que quelqu'un le dise clairement à l'écran, on sait pas qui est qui. On sait pas qui est dans quel camp. On sait pas, ils ont tous les uniformes militaires des Américains, ils se battent tous avec les mêmes armes, il n'y a pas personne qui dit AK-47 en train de crier c'est bon, des trucs, tu sais, il n'y a pas d'intégristes djihadistes soudainement qui débarquent. C'est vraiment une guerre interne aux États-Unis, et de cette façon-là, c'est ça, c'est comme c'est particulier, c'est vraiment une autre façon de montrer le conflit là.
Ouais, ben c'est ça, mais clairement c'est intentionnel, tu sais, ça aurait été facile de faire un film ou que le président, c'est clairement Trump, puis on montre que les méchants, c'est ceux qui sont pro-Trump, puis tu sais, vraiment diviser ça, la droite contre la gauche ou quelque chose du genre. Mais dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus nébuleux. Tu sais, juste le fait que ça soit le Texas et la Californie qui font équipe ensemble, alors que en ce moment, en tout cas, c'est deux États qui n'ont pas du tout la même politique. Mm-hmm. Puis, comme tu disais, quand les journalistes se promènent puis ils voient des trucs de violence partout, on sait jamais vraiment qui est qui, puis qui est contre qui. Tu sais, puis je pense que le but de Alex Garland, c'est de montrer que quand t'es rendu dans une guerre, surtout une guerre civile, c'est vraiment juste le chaos, puis c'est l'horreur, c'est comme... Ah ben lui il me tire dessus, ben moi aussi je vais tirer dessus, puis à un moment donné il y a pas vraiment de politique sur le terrain là.
C'est drôle, mais j'aurais quand même pris, tu sais, oui c'est le chaos, puis oui t'as tout à fait raison, tu sais, quand t'es dans la guerre, tu fous de savoir ce que l'autre a, pour qui il a voté. Tu sais, généralement c'est comme, ok, il y a une scène d'ailleurs où il se ramasse dans l'équipe de journalistes se ramasse dans une espèce de terrain, une clairière, et c'est clairement un domaine aménagé. Il y a une maison d'où un tireur d'élite les prend, essaie de les tuer. Tu sais, sur leur camionnette, c'est écrit journal, press et tout ça, mais ils tirent quand même sur leur camionnette. Et ils se ramassent aux côtés de soldats d'une équipe de tireurs d'élite qui essaie de tuer cette personne-là qui leur tire dessus. Et le journaliste, justement, celui qui tripe sur l'adrénaline, joué par Wagner Moura, à un moment donné, il demande, est-ce que vous êtes avec les forces de l'Ouest ou est-ce que vous êtes avec l'Union de la Floride et tout ça? Et un des soldats qui dit, ça change quoi? Tu sais, je dis,
ouais, c'est où, ça.
Il y a un gars devant nous qui essaie de nous tuer. On essaie de le tuer. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir de plus? Fait que le message est là. Ceci étant dit, J'essaie, des fois, je suis plate au podcast, je suis très terre à terre et je suis chialeux. Ça doit être large. Mais, encore une fois, c'est que le film s'appelle Civil War. Le film sort au moment où les tensions sont, en apparence, en tout cas, certainement très élevées entre les républicains, entre les démocrates. Il y a, semble-t-il, 70% des républicains qui pensent que les mensonges de Trump sur l'élection de 2020, c'est vrai et que l'élection a été volée. Et il y a des gens qui croient un paquet de théories de la conspiration. Récemment, au procès de Trump à Manhattan, il y a un complotiste fini qui s'est mis en feu. Qui s'est aspergé de l'essence puis qui a craqué une allumette, il est mort. Il s'est suicidé pour des théories complotistes qui n'ont aucun sens. Je ne dis pas que c'est directement alimenté par Trump, mais disons qu'il n'a pas aidé à résorber cet afflux de théories conspirationnistes-là. Et là, tu as un film qui ne te dit pas pourquoi ils se battent, te dis pas pourquoi, encore une fois, la Californie et le Texas font équipe. Et surtout, je me disais, c'est un film qui présente des journalistes. Au début du film, on parle de l'importance de la presse. Ils sont un peu partout. Là, les gens, étrangement, les laissent faire leur travail, en tout cas dans la grande majorité du temps. Et là, je me disais, on va avoir quelque chose, une réflexion sur le métier, sur l'importance d'être là, sur est-ce qu'ils vont avoir des déchirements éthiques en disant, ben là, on couvre des gens qui... tue des gens, des soldats qui se rendent, ou on couvre des gens qui commettent des atrocités. Est-ce qu'on va remettre notre travail en question éventuellement? Il y a un petit peu de ça, mais je suis arrivé à la fin du film, je vais comme tout ça pour ça. Je sais pas, j'ai trouvé que la promo du film, puis encore une fois, le timing, je m'attendais pas à ce que personnage de Nick Offerman soit Trump. C'est pas ça que je voulais, mais j'aurais voulu au moins savoir pourquoi ils se battent.
Ouais, ben c'est ça. S'il faut comprendre pourquoi ça arrive, c'est pas un film qui a des explications. On va pas sortir de ce film-là en se disant « Ok, je sais pour qui voter pour les prochaines élections. » C'est vraiment pas un film ouvertement politique, mais moi, je voyais ça plus comme... un film comme, mettons, Apocalypse Now.
Oui.
Tu sais, dans Apocalypse Now, tu sais, c'est vraiment une traversée du Vietnam, puis tout le monde se tue partout. C'est vraiment la violence, le chaos, l'horreur. Et je pourrais pas... j'ai vu Apocalypse Now presque une dizaine de fois, mais je pourrais pas t'expliquer c'est quoi qui se passe pendant la guerre du Vietnam basé sur ce film-là. Parce que c'est pas un film qui décrit les stratégies, tout ça. C'est juste... la folie, dans le fond, de la guerre.
Oui, sauf que Apocalypse Now, c'est basé, c'est articulé autour d'un vrai conflit qui, avec des... Oui, les causes sont complexes. Je te résumerai pas la guerre du Vietnam en 30 secondes. Ça me rappelle quand, dans mon ancien travail, on m'a déjà dit en urgence, « Hugo, peux-tu nous faire un texte explicatif sur le conflit israélo-palestinien? T'as 2 heures. » je l'ai fait, mais disons que c'était pas complet. Mais... tu sais, encore une fois, j'ai pas besoin d'un cours de sociopolitique au début du film, puis j'ai pas besoin. Sauf que les rares images et les rares explications qu'on a au début, dans la bande-annonce sur un peu les causes du conflit ou qui est avec qui est contre qui, c'est tout ce qu'on a dans le film. Et j'ai, encore une fois, je comprends l'idée et je respecte le processus de M. Garland là-dedans, mais je suis déçu quand même de pas savoir, puis surtout que effectivement, à travers tout ça, t'as la remise en question du travail de journaliste, t'as qu'est-ce que la vérité, parce que le journaliste doit rapporter la vérité, et on n'a pas on a la réflexion sur l'amour de l'adrénaline, puis l'espèce de fait de vivre d'émotions fortes, puis de triper là-dessus, puis jusqu'à se mettre en danger, en danger de mort. Mais...
Ouais, je comprends ce que tu dis, puis c'est sûr que si toi, tu avais la déception de pas avoir cette compréhension-là, c'est sûr que le film il y a pas de clé dans le film. Ouais. Mais, tu sais, je reviens à mon point que je pense vraiment que le but, c'est de dire, tu sais, dans le film, il y a souvent des scènes où il y a des personnages qui font littéralement des crimes de guerre.
Ouais.
Tu sais, qui exécutent du monde, incluant des civils, tout ça. Puis je pense que ce soit, mettons, des démocrates ou des républicains ou un mélange des deux, ça reste des crimes de guerre. Puis je pense qu'on regarde le film puis on trouve ça horrible, peu importe la justification ou l'allégeance des soldats, là.
Oui, absolument. Puis il y a une scène d'ailleurs avec un acteur qu'on voit souvent. Et là, évidemment, j'essaie de chercher son nom et je ne le trouve pas.
Je pense que tu fais référence à Jesse Plemons, celui qui est une rouge.
Oui, absolument. Qu'on avait vu, entre autres, dans I'm Thinking About Ending Things, qu'on avait beaucoup aimé.
Ouais.
Et qui là, de toujours jouer des rôles de gars un peu weird. Puis dans ce film-là, il est très weird. mais cette scène-là est excellente. Et effectivement, on n'a pas besoin de savoir de quelqu'un il se trouve. On comprend très bien qu'il est dans son propre camp, puis ça s'arrête là. D'ailleurs, on avait cette scène-là dans la bande-annonce. Les journalistes ils disent « Écoutez, faites-nous pas de mal, on est des Américains. » Puis là, il regarde le personnage a son M16 ou je sais pas quoi, ou son AR-15, puis il regarde et dit « Quel genre d'Américain? » Ça résume beaucoup de choses. En même temps, je me dis, si c'est ça... Encore une fois, je vais arrêter d'en parler après, c'est promis. Mais si c'est ça l'ensemble de ta réflexion politique, je trouve que c'est un peu insuffisant. Mais bon, c'est mon opinion. Mais c'est ça, si vous allez voir ce film-là, dans cette perspective-là, ça fonctionnera pas. Par contre, je pense que selon ton point de vue à toi, c'est si vous allez voir ce film-là, pour voir un film où il y a de la tension à couper au couteau et il y a aussi cette banalité de l'horreur de la guerre et surtout cette réussite technique, je pense qu'à ce moment-là, c'est un bon film.
Oui, c'est ça. Puis tu sais, je reviens aussi, c'est oui, film un peu d'action, de guerre, c'est intense, mais je trouve vraiment que les acteurs sont bons. Il y en a un qu'on n'a pas mentionné, il s'appelle Stephen McKinley Anderson. C'est l'homme plus âgé afro-américain qui a joué, entre autres, dans Dune, dans le premier film.
Oui.
Puis moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Puis je pense que c'est mon personnage préféré dans Civil War. C'est comme le vieux vétéran qu'il y en a vu d'autres, puis lui, il trouve toujours que ce que les jeunes journalistes veulent faire, c'est des mauvaises décisions qui se mettent en danger, puis là, il est comme « Non, j'ai vraiment pas un bon feeling, faites pas ça », puis évidemment, ça finit tout le temps par mal virer, puis c'est lui qui a raison, dans le fond, fait que je trouvais ça que le fun comme personnage, que ça soit comme le vieux sage... qui en a vu d'autres, là.
Oui, absolument. Puis il était aussi dans Boys Afraid. Je me rappelle plus de son rôle exactement.
Il jouait le psy de Joaquin Phoenix.
Voilà, exactement. Mais donc, c'est ça. Donc, on le voit quand même assez régulièrement et c'est un bon acteur. Puis il y a beaucoup de présence à l'écran. Puis c'est drôle parce que tu disais effectivement, c'est le type qui dit faites pas ça, ça va mal aller. C'est un peu le I'm too old for this shit.
Exactement.
De Lethal Weapon. Non, voilà. Mais voilà, mais effectivement, mais ça aussi, je trouve que c'est ce groupe de journalistes-là, ça dépend dans quel côté tu le prends, parce que t'as la jeune qui veut faire, tu sais, qui veut bouffer du journaliste de guerre, t'as la plus vieille qui a, tu sais, de l'expérience, qui est un peu brisée en dedans, t'as le vieux de la vieille, t'as le gars qui est un peu trop énervé. Des fois, je trouvais que ça s'approchait du cliché. Je pense que heureusement, certains revirements scénaristiques font en sorte qu'on évite de tomber dans ce piège-là. Puis oui, effectivement, Kirsten Dunst là-dedans, comme journaliste de guerre qui a vu des erreurs. Puis à un moment donné, il y a des scènes où elle est en choc post-traumatique. Elle n'est pas capable de regarder ce qui se passe, elle n'est pas capable de faire sa job parce que ça lui rappelle trop d'autres choses. Elle a trop vu de guerre et de mort pour être fonctionnelle. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense pas avoir jamais eu... Ah, c'est pas vrai, j'ai parlé parce que j'anime aussi un podcast qui s'appelle Entretien journalistique. Et je m'excuse pour la plug, là, c'est juste pour amener un... sujet par rapport au film. J'ai parlé à un journaliste, entre autres, qui était allé en Afghanistan, Alexandre Panetta, là, qui était à la presse canadienne à l'époque. Et je trouve ça fascinant de dire, tu vas quelque part où, tu sais, évidemment, tu circules avec l'armée canadienne dans ce contexte-là, il y a des chances que tu meurs. Il y a des chances que tu sautes sur une mine, il y a des chances que tu te fasses tirer dessus par un tireur embusqué. Tu peux mourir. Et tu sais, c'est la question aussi. Je pense qu'il est un peu un filigrane dans Civil War, c'est à quel point tu es prêt à faire ta job? Es-tu prêt à mourir pour ta job? Et c'est ça. Je trouvais ça intéressant.
Oui, ben à un moment donné, le personnage de, je pense, de Jessie, la jeune, ce qu'elle dit, c'est que ça fait quelques jours qu'elle suit les autres journalistes en zone de guerre, puis elle dit, tu sais, j'ai jamais eu aussi peur, mais en même temps, je me suis jamais sentie aussi vivante. Oui. Fait que je pense que c'est un peu ça l'idée du film, c'est que c'est pour être journaliste de guerre, c'est comme un peu quelqu'un qui fait des sports extrêmes, c'est se mettre en danger, rechercher l'adrénaline, mais c'est sûr que logiquement, c'est, tu sais, moi je ferais jamais ça. Tu dis tellement. T'sais, risquer sa vie littéralement, là?
Oui. Ben, tu vois, il y a une partie de moi qui a déjà eu envie de faire ça pour le vivre, pour le faire une fois. Le faire une fois, puis après ça, plus le faire, mais tu sais, juste pour dire, regarde, je l'ai fait. Parce que c'est, à raison ou à tort, perçu comme étant l'accomplissement, pas ultime, mais pas loin. Tu sais, t'as ce genre de reportage que. Les grands reportages, les grands reporters, tu couvres des trucs, bon, la politique, mais à haut niveau, tu couvres des grandes catastrophes, puis là, tu vas couvrir un conflit. Puis là, t'es comme, OK, j'ai couvert l'histoire. Mais aujourd'hui, je pense pas. D'abord, je suis pas sûr que ma copine me laisserait me dire que c'est une bonne idée.
Si tu dis, ah, demain matin, je m'en vais en Ukraine. Puis...
Ah, Seigneur. Je sais pas comment moi je me sentirais. Puis honnêtement, je sais pas comment moi je me sentirais, puis à quel point je serais capable ou pas. Tu sais, puis à la limite, tu peux toujours dire, je m'en vais à Kiev, puis, ou à Kiev, dépendamment comment tu veux le prononcer, bien sûr. Puis tu dis, OK, il n'y a pas trop de danger, mais peut-être de dire d'aller sur le front, d'aller trancher. Puis de risquer de me prendre un missile par la tête ou un obus par la tête juste parce que ça tombe là. Regarde, c'est un job que je trouve fantastique, que je serais pas capable de faire. Mais bon, disons que c'est ça. Dans ce film-là, dans Civil War, c'est en bon français, un crash course de journaliste de guerre. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses que tu as... Parce que je pense que tu as un peu abordé le sujet, mais est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas aimées vraiment dans Civil War?
Ben, à part ce qu'on a beaucoup parlé, c'est sûr que si on recherche, si on veut comprendre la raison du conflit dans le film, ça, c'est pas présent dans le scénario. Mais comme je disais, moi, ça m'a pas tellement dérangé. Un truc que j'ai accroché un peu, c'est je trouve que ça arrive peut-être 4 ou 5 fois dans le film que soudainement, il y a une chanson, à un moment donné, il y a une toune de rap, il y a des chansons rock, tout ça, puis les tounes sont bonnes. Puis c'est intéressant, ça, cinématographiquement, l'effet que ça fait, le contraste avec les scènes de guerre qu'on voit avec, mettons, une toune de rap old school. Tu sais, c'est intéressant, mais je trouve que, justement, pour un film qui est relativement sérieux, sur un, tu sais, oui, c'est de la fiction, pour pas dire de la science-fiction, tu sais, c'est pas une vraie situation, mais c'est quand même... quelque chose de grave, fait que je trouvais ça étrange de dire « Ah, on va comme s'amuser un petit peu avec la trame sonore puis mettre des tunes. » Fait que, tu sais, je suis comme ambivalent par rapport à ça, parce que comme je te dis, je trouve que les scènes fonctionnent, mais je me demande si c'était justifié d'utiliser ces chansons-là.
Mais moi, c'est ça, tantôt j'ai parlé de... Ben, il y a une vingtaine de minutes maintenant. Je parlais de Full Metal Jacket et... Ça m'a fait penser à ce film-là, c'est-à-dire, il y avait, je pense, dans Full Metal Jacket, des moments où tu as des scènes de combat et tu as de la musique rock des années 70. Et ça m'a fait penser à ça, l'espèce de côté, justement, complètement chaotique, la guerre pour la guerre, puis, tu sais, pourquoi est-ce qu'on est là? Il y avait une déclaration dans Full Metal Jacket, à un moment donné. D'ailleurs, t'as des journalistes, à un moment donné, dans Full Metal Jacket, puis ils disent aux soldats, regardez pas la caméra, battez-vous, puis tu dis, OK, wow, c'est complètement fou. Mais t'avais une déclaration d'un des soldats, de l'unité qui, mais il regarde la caméra puis il dit c'est pas les bons, en gros c'était la version française dont je me souviens là, mais il disait on tue pas les bons Vietnamiens. Puis là j'étais comme oh mon Dieu, vraiment quelque chose. Mais c'est ça, je trouvais que cette musique là ça rappelait ça. Ce que je te dirais aussi, puis je comprends que c'est une question de budget puis de temps puis de scénario puis tout ça, mais j'ai trouvé que la guerre civile était trop propre. Dans le sens où, je pense que c'est aussi voulu pour faire un contraste, de dire, t'es en train de rouler dans, le nord-est américain, les vastes champs, il se passe, la guerre est pas là parce qu'il y a rien de stratégique, il y a rien de, qui a une importance stratégique là. Mais tu sais, t'as les grands champs, puis il y a rien, ils sont dans la forêt quasiment, puis ils circulent sur la route, puis la route est belle, puis il fait beau, puis ta-ta-ta. Mais tu sais, t'as des moments donnés où, t'as des gens qui veulent de l'eau, t'as des gens, t'as un camp de réfugiés, puis t'as des petites scénettes comme ça, puis tu dis, OK, on est en guerre, la population civile souffre, mais c'est comme, pour moi, c'était pas assez. Tu sais, j'ai trouvé, au début, ouais. Ça commence à New York, puis il y a des gens qui veulent de l'eau potable. Puis là, il y a un camion de distribution d'eau, puis là, t'as des gens qui crient, puis finalement, bon, il se passe quelque chose, on dira pas ce qui se passe. Mais tu sais, je me dis... Tu peux faire, peut-être que c'est une question de tu peux payer 50 figurants seulement cette journée-là, puis c'est correct. Puis la scène fonctionne pareil, mais tu sais, je te dis, OK, on manque d'eau potable à New York. Ben à ce moment-là, y a-tu des gens qui ont faim? Y a-tu des gens qui sont morts dans les rues? Y a-tu des gens, tu sais, y a-tu de la maladie? Y a-tu quelque. Tu sais, c'est. Je sais pas. C'est peut-être moi qui picoche, là.
Non, mais t'as raison. Mais tu sais, on revient à l'idée qu'on suit vraiment oui. les quatre journalistes principaux. On oui. les suit. Ils se rendent à Washington. Puis, tu sais, on voit ce que eux voient. Fait qu'on n'a pas une vision d'ensemble de partout dans le pays, tout ce qui se passe. Oui. Mais ton point est bon que peut-être une question de budget. Tu sais, c'est pas un film à, je pense pas que c'est un film qui a coûté 200 millions de dollars, là. Donc, peut-être qu'on n'avait pas le budget pour détruire les États-Unis au complet.
Ça a coûté 50, normalement.
Mais c'est pas un gros budget pour l'ambition du film, là.
Oui, non, effectivement. Mais ça finit quand même avec beaucoup d'action, on n'en dit pas plus. Il y a quand même, ça, c'était quand même assez impressionnant. Puis, tu sais, je pense qu'effectivement, puis on va conclure là-dessus, c'est ça, c'est cette idée-là, de comme on l'a dit à plusieurs reprises, si on arrive là en disant, ils vont nous expliquer la politique, pis tata, tu sais, c'est pas ça. D'ailleurs, sur la page Wikipédia, il y a une carte des États-Unis, fictif, là, dans ce film-là, puis j'en apprends plus avec la carte Wikipédia qu'avec avec le film. Mais c'est correct, tu sais, ça reste, c'est un film, ça dure 2 heures, 1h40. Et, si on vous disait, sur le plan technique, c'est un bon film, il y a des bons acteurs, il y a plusieurs excellentes scènes. Allez pas là en cherchant un cours de politique ou un cours de guerre civile, en cherchant de la misère, puis des gens malades, puis tu sais, la tristesse. Puis c'est pas ça. C'est pas ça qu'Alex Garland propose. Est-ce que c'est son meilleur film? Moi, je dirais pas ça. Moi, je pense qu'Annihilation, ça reste son grand film. Et bon, chacun ses goûts peut-être, là. Je sais pas, je me disais, tu sais, si effectivement, ça, si les gens en parlent aux États-Unis, j'ai pas suivi le discours, le débat là-dessus. Est-ce qu'ils en parlent simplement pour dire, bon, ben, c'est un bon ou mauvais film, ou ils disent, ils raccordent ça à la politique?
Ça va vraiment dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses dont on a parlé aujourd'hui, que ça revient dans ce que je vois en ligne. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y a vraiment des trucs que je vois contradictoire, parce que, comme, tu sais, mettons, par rapport à la façon que les journalistes sont présentés, j'ai autant vu des gens qui étaient comme, ah, OK, moi, c'est ça que je pense, en tout cas. Tu sais, c'est un peu un hommage aux journalistes qui ont le courage d'aller en zone de guerre. Mm-hmm. Mais en même temps, j'ai vu du monde sur Internet qui était comme, ah, c'est un film qui montre que les journalistes, c'est des vautours, puis, tu sais... ils prennent pas ça au sérieux, puis ils cherchent juste à prendre c'est sensationnaliste, prendre des photos de trucs horribles, tu sais, puis je suis comme, OK, on a-tu vu le même film, tu sais, c'est complètement contradictoire.
C'est une guerre, on prendra pas de photos de gens qui font leur épicerie, là.
Ben c'est oui.
Un peu, c'est... les gens, hashtag les gens. est-ce que tu recommandes Civil War?
Oui, je recommande le film. T'sais, oui, on peut avoir certaines réserves, mais t'sais, en ce moment, c'est moi, je trouve que c'est pas mal le film à voir en salle. En attendant les grosses sorties de l'été, c'était comme un genre de blockbuster qui est sorti au printemps, là.
Oui, ben, je recommande. Encore une fois, j'ai nommé toutes mes réserves là depuis le début de l'épisode. Je pourrais certainement dire que je recommande beaucoup plus que le Civil War des Avengers. Ça, c'est déjà ça.
C'est un autre débat. Moi, j'ai beaucoup aimé le Civil War des Avengers, mais c'est autre chose complètement. Là.
Écoute, je suis assez content qu'ils aient réussi à évacuer l'aéroport avant que les Avengers se battent dedans. Personne n'a été blessé. C'est bien le fun. Bref. Voilà, donc c'était Civil War d'Alex Garland. Merci, Kevin, d'avoir vu ça. Ben, pas avec moi, mais disons...
d'en avoir esprit. Parlé, en tout cas.
Voilà, d'en avoir parlé avec moi, effectivement. On va voir si ça a des répercussions. J'ai pas entendu Trump parler de ce film-là. Peut-être qu'il est trop occupé pour avec ses procès pour aller le voir. Mais bon, espérons que ça au moins suscite des discussions sur, justement, la stabilité sociopolitique des États-Unis. Avant de se laisser, est-ce que tu as quelques minutes, tu veux peut-être nous parler de ce que tu as vu des choses récemment, et des affaires qui t'ont intéressé, il y a des choses que tu attends avec impatience?
En ce moment, je suis en train de suivre, t'en avais parlé un épisode avant que la série sorte, mais moi je suis en train d'écouter Fallout, la série de post-apocalyptique sur Prime, puis je pense que je suis rendu à épisode 5 ou 6, puis je sais pas si tu as commencé à écouter les épisodes, mais moi j'aime beaucoup ça.
J'ai commencé à les écouter. Il faudrait que je m'y replonge, mais c'est ça. J'ai commencé à les écouter. C'est ça. Je suis content que t'aimes ça, effectivement. Puis c'est certain qu'ils ont mis de l'argent. Amazon Prime, en fait, Amazon a mis du budget là-dedans.
Mais ce qui est drôle, excuse-moi de te couper, mais
non, vas-y.
Justement, par rapport, mettons, on fait la comparaison avec Civil War, j'ai l'impression, on dirait que ça a coûté plus cher de faire Fallout, parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans un monde post-apocalyptique. Autant que tu disais que dans Civil War, tu sais, souvent, il n'y a pas l'air de se passer grand-chose, ils sont dans une forêt. Dans Fallout, tu sais, c'est vraiment, tout est détruit. On n'a aucun repère avec le monde d'aujourd'hui, là, t'sais.
Oui, absolument. Puis bon, on salue aussi la présence. Je veux pas que tu me donnes de spoilers, mais Kyle MacLachlan, je sais pas, je vais mal prononcer son nom.
Oui, il y a un petit rôle au début,
Voilà. Mais donc, évidemment, ceux qui ont vu, et là, évidemment, le nom de la série m'échappe.
Twin Peaks.
La Twin Peaks, voilà, la série de David Lynch, reconnaîtront notre l'acteur préféré.
L'acteur de Showgirls, faut pas oublier.
Oui, absolument. Oui, aussi. J'ai pas vu Showgirls, mais oui, effectivement. Je joue là-dedans aussi. Puis évidemment, l'acteur de Dune, aussi de David Lynch. Donc, ce Dune dont il ne faut pas prononcer le nom, semble-t-il. Sinon, ça génère l'image de Sting en bobette dans nos esprits. Voilà. Écoute-moi, demain, en fait, là, on enregistre, on est mercredi le 24 avril. Demain, on m'a invité à aller voir Human, le film de la fille de Coppola, de Cronenberg. Ouais, pas la même personne du tout. Film dont on a Kelton Cronenberg et avec Jim Baruchel qui joue là-dedans. Et donc, je sais pas, t'as entendu parler de ce film-là un petit peu?
Oui, j'ai vu des extraits, j'ai entendu parler un peu. C'est assez intriguant.
Oui, c'est intriguant. Ben, c'est ça, c'est rapidement. Moi, j'ai vu, en fait, c'est une amie qui invitait quelqu'un à l'accompagner. Je suis comme, ah, ben, ça a l'air intéressant, je vais y aller avec toi. C'est dans un contexte de crise climatique, crise environnementale, et il faut que l'humanité se débarrasse de 20% de sa population. Et là, il y a une espèce de programme où tu t'inscris, puis ils viennent te chercher pour se débarrasser de toi. Peut-être faire du soleil vert, on ne sait pas. Et donc, ça, il se passe toutes sortes de choses. C'est un lettre d'un huis clos d'horreur, ou en tout cas un huis clos avec une forte tension. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Et puis, bon, évidemment, la fille de Cronenberg, j'imagine qu'il va y avoir des bouts un peu particuliers. D'ailleurs, il y a un autre film de Cronenberg qui s'en vient là, cette année.
Oui, j'ai pas le titre, mais je pense au Festival de Cannes, il va être présenté avec Vincent Cassel qui joue dedans?
Ah, je pense que oui. Bref, on va faire nos recherches, comme on dit. Mais effectivement, ce qu'on aimerait faire, bien sûr, c'est de l'écouter pour vous, chers auditeurs, à suivre, donc, évidemment, à rembobinage. Avant de vous laisser, je vous parle, comme d'habitude, de La Voûte. La Voûte, c'est des épisodes exclusifs. C'est des films qui ont marqué leur époque. Donc, on replonge un peu dans l'histoire du cinéma. On prend des films, pas nécessairement des grands films, mais ça peut être des, justement des films qui ont marqué leur époque. Et pour y avoir accès, il faut absolument s'abonner à notre page Patreon. C'est 5$ par mois seulement. Ça coûte moins cher qu'un... Avant, je disais c'est le prix d'un café. Maintenant, c'est presque... En fait, aujourd'hui, c'était moins cher s'abonner à Patreon que le café que je me suis payé tout à l'heure. Donc, ça vaut la peine. Et pour l'instant, on a 4 épisodes pour vous. On a la trilogie Batman de Christopher Nolan. On a également le film Sorcerer et, là, faut que je le montre, faut que je le mette en ligne, mais on a un 5e film qui s'en vient, c'est Terminator. Donc, Terminator de James Cameron, le premier. Évidemment, on va faire Terminator 2 et il n'y a jamais eu de suite après ça. C'est disparu dans les limbes. Mais donc, c'est ça, Terminator, ça s'en vient, donc avec Arnold, bien sûr, et donc Terminator 2 très bientôt aussi. La voix de vous abonner, c'est donc un épisode par mois au minimum. Et vous pouvez aussi, si vous n'avez pas envie de vous abonner, vous pouvez aussi les acheter à la pièce. Donc, tout ça, c'est disponible sur notre Patreon. Et en terminant, je vous invite bien sûr à vous abonner à l'infolettre de pieuf.ca. Ça vous donne accès à l'ensemble des contenus, donc publiés durant la semaine, y compris les balados. D'ailleurs, parlant de balados, si vous voulez réécouter les autres épisodes de Rembobinage, on est rendu à 130, 140, j'ai perdu le fil. Tout ça, c'est sur, bien sûr, pieuf.ca. On était aussi sur Apple Podcasts et Spotify. Donc, longue fin, long monologue. Kevin, merci encore et on se dit à la prochaine.